Vous écoutez
RMC.
Et c'est parti déjà entre 3 et le Paris FC, Fred Joly.
Exactement, depuis 9 secondes, le coup d'envoi donné par les Parisiens et un ballon dégagé assez rapidement par la défense au bois. Ça revient dans le camp parisien, dans les pieds d'Otavio, 0 à 0.
À Nice, donc c'est parti également. Maxime Tillette, on rappelle, match à huis clos.
Exactement, après les sanctions et notamment l'envahissement de terrain en fin de saison dernière face à Metz, les Lorientais qui viennent de donner le coup d'envoi de la projection tout de suite.
C'est parti,
dans le camp des Niçois, le ballon qui va filer en touche, ballon rendu au J.
Clément, le Stade Merdiri Marvin qui découvre enfin la Ligue 1, il l'attendait depuis longtemps.
Exactement, et avec notamment des petits tifos hein, à droite et à gauche avec écrit 13 ans pour renaître notamment. Et oui, la liquidation judiciaire de ce club là c'était en 2013, il en a fallu du temps pour connaître des montées successives, avec Richard Désiré d'ailleurs que le club peut saluer, qui a été vraiment l'entraîneur fondateur de cette remontée, et ensuite Patrick Videra qui a réussi à faire remonter le club deux fois de suite, promu l'année dernière en Ligue 2, promu cette année en Ligue 1. Les morceaux qui commencent une nouvelle histoire, tout simplement une nouvelle page avec cette entraîneur là, 0-0 dans ce début de rencontre. Des petites indications pour vous dire que 8 des 11 joueurs titulaires au Mans découvrent la Ligue 1 ce soir. C'est le grand baptême pour la grande majorité de cette équipe, et que côté brestois, eh bien il y a une petite anomalie, si on peut l'appeler ainsi, en tout cas quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est que Lucas Touzard est présent en défense centrale et non pas au milieu de terrain. Ludovic Ayork lui occupe la pointe de l'attaque brestoise. 0-0 après 2 minutes.
Oui, effectivement hein, Clément, hein, côté Manceau, tu l'as dit, il y a 8 sur 11 qui découvrent la Ligue 1. Ça avait été le cas l'année dernière en Ligue 2, où est-ce qu'il y avait énormément de joueurs qui étaient aussi promus depuis la nationale. Ça avait plutôt bien fonctionné en Ligue 2. On leur souhaite que ça fonctionne aussi de la même manière.
Le ballon chaud déjà dans la surface de réparation du TFC. 1 minute 50 de jeu ici au Stadium. C'est parti fort avec je vais me calmer un peu, mais première incursion.
C'est la rentrée.
Non, mais première incursion avec Noan Erté qui arrive à prendre le meilleur au milieu de terrain sur les Toulousains. Il s'introduit dans la surface de réparation, il joue avec Duranville, il centre fort devant le but, et heureusement Guillaume Rest est venu mettre la main, sinon on aurait eu peut-être l'ouverture du score du côté lyonnais. Le corner, il est repoussé par la défense toulousaine. Elle est lyonnaise en effet. Après 2 minutes de jeu, ils sont pour l'instant dans le camp toulousain. Attention, la contre-attaque peut-être avec Yann Beau. Il y a un 2 contre 2 à jouer. Yann Beau qui a la possibilité avec Hidalgo. Maintenant il va y aller tout seul. Yann Beau, il va frapper au-dessus des buts de Rémi Descamps. Il y avait peut-être mieux à faire.
Est-ce qu'il ne fallait pas servir son collègue à droite?
Il y avait sûrement mieux à faire. Ouais, c'était un 4 contre 3. Hein, les Toulousains qui s'étaient très rapidement projetés vers l'avant. Projetés, et ouais. C'est Clinton Mata qui avait été très intelligemment défendu. Il a reculé en attendant de l'aide de ses coéquipiers. Mais certainement que Beau avait mieux à faire. Et notamment en décalant, tu l'as
Hidalgo
dit,
Karine, était tout seul, hein,
sur le côté droit. Ouais. Ouais, c'est ça, quand tu es attaquant, parfois tu penses à toi plutôt qu'à tes coéquipiers. Bon, on va mettre sur le compte de. C'est le début de la saison.
C'est le début.
Il
n'a
pas encore les automatismes, voilà.
Effectivement. En tout cas, quand même, Romain, c'est vrai que l'ambiance est très belle. J'ai l'impression que le stadium pousse vraiment ses joueurs face à cette équipe totalement remaniée de Lyon. Mais c'est une belle journée pour commencer la saison de football.
Alors d'abord, c'est une belle affiche de recevoir Lyon, toujours. C'est quand même un club qui fait déplacer les foules, hein, encore. Hein, et puis c'est quand même aussi un club qui, on l'espère, jouera la Ligue des Champions cette saison. Donc il y a un peu plus de 25 000 spectateurs ce soir au stadium. Il fait très bon. On a eu un magnifique tifo de la part des Indians Tolosa qui a en effet qui a pris toute tout le virage derrière Guillaume Restation, parce que Vignolo est dans la surface de réparation. La frappe, elle est complètement dévissée. Il y avait peut-être encore là aussi mieux à faire de la part de l'attaquant argentin, parce qu'il y avait son compatriote Santi Hidalgo qui se présentait au point de penalty. Ça fait deux incursions pour les Toulousains et c'est dommage, c'est mal converti, c'est mal fini par les attaquants toulousains. 4 minutes de jeu, 0-0 donc pour l'instant entre le TFC et Lyon.
Et on part dans le chaudron à Saint-Etienne. Vous le savez, c'est la troisième journée de Ligue 2. On va saluer Edouard G. Ça régale Saint-Etienne qui continue de creuser l'écart face à Grenoble.
Salut Karine, salut Maxime, rebonsoir à tous. Oui, on est à 2-0, et bien à 3-0 dans le temps additionnel dans les dernières secondes, juste avant la mi-temps. Un coup franc de Xungai à l'entrée de la surface de réparation, simplement repoussé par Alexandre Oliero, le gardien grenoblois. Il n'y avait aucun défenseur dans le coin, sauf un attaquant, l'attaquant stéphanois Ivan Cardona, qui a mis le ballon au fond des filets. Des Grenoblois totalement inoffensifs dans cette première période, et des Stéphanois très cliniques, 3 tirs, 3 buts, Zongaï à la 12e, Ballot à la 19e et donc Yvan Cardona à la 45e plus 3.
Magnifique Saint-Etienne donc qui pourrait signer un 3 sur 3, 3 matchs, 3 victoires. On repart au Mans avec Clément Brossard. Comment ça se passe pour les hommes de Videra qui découvrent, on rappelle, la Ligue 1 pour beaucoup?
Toujours 0-0 après 4 minutes de jeu. Il y a une première opportunité pour les Brestois. On sent quand même hein, une petite différence dans le niveau physique surtout, où c'est bien plus costaud chez les Bretons. La première opportunité, elle est signée Patemboup qui a récupéré un ballon, une frappe contrée de Ludovic Ajorc dans le coin de la surface de réparation. Il a tenté sa chance du droit. C'est parti au-dessus de la cage de Nicolas Kosic. 0-0 après 5 minutes de jeu ici au Mans.
On part voir les Troyens avec Fred Joly. On rappelle l'Estac promu également en Ligue 1 face au Paris FC. Fred, est-ce qu'il y a une des deux équipes qui est un petit peu plus entreprenante?
Évidemment, oui, les Parisiens sont un peu plus entreprenants face à des Aubois, peut-être un petit peu impressionnés, un petit peu intimidés par ce retour en Ligue 1 depuis quelques minutes et depuis le début du match surtout. Eh bien, ce sont les Parisiens qui ont mis le pied sur le ballon sans vraiment se montrer dangereux. On a vu hein, quelques accélérations, mais à chaque fois, il y avait toujours un pied au bois qui traînait ou tout simplement Patrick Kubic, le portier, pour s'interposer avec peut-être cette tentative d'Ifnaoui du côté de Troyes. Voilà, ils sont en train de se rassurer un petit peu, les Aubois. Ils sont en train de prendre confiance et de tenter de monter d'un cran dans cette rencontre. Ils sont à l'entrée de la surface de réparation. Il va falloir mettre cette balle dans la surface de réparation. Non, finalement, on recule du côté des Aubois. 0-0, 6 minutes 30 de jeu au stade de l'Aube.
Belle ligne d'attaque hein, côté Paris FC. Hein, tu l'as dit un peu plus tôt avec l'ajout de Pablo Pagis, un Ilan Keba qui a fait une très belle saison l'année dernière, un Sinayoko aussi qui arrive d'Auxerre. C'est vrai que ça peut faire peur. Hein, ça peut faire peur et je ne serais pas étonné de voir un Paris FC intéressant cette année en Ligue 1.
Les Parisiens qui ont recruté des joueurs qui avaient réussi leur saison en Ligue 1 l'an passé, comme Pablo Pagis ou comme Sinayoko, effectivement, en provenance de Lorient et d'Auxerre. On va dans le sud-est, à Nice, à l'Alliance Riviera, ça joue entre Nice et Lorient. Et Maxime Tillette, nous, on a un focus, un gros plan sur notamment une recrue.
Axel Witsel qui est présent en tribune avec Morgan Sanson et Moïse Bombito, deux Niçois qui les deux derniers cités, Sanson et Bombito, qui devraient faire leur retour dans quelques semaines pour aider cette équipe. Eux qui, alors bon, Bombito a fait la Coupe du Monde mais a eu un petit pépin physique derrière, et puis Morgan Sanson s'est fait opérer du genou, nettoyer le genou pour repartir sur des bases plus saines cette saison, et donc il a repris l'entraînement individuel. Donc voilà pour cette entame de match, 7ème minute, toujours 0-0. Les débats sont très équilibrés avec deux équipes plutôt bien en place, et des Lorientais qui, mine de rien, alors ont certes perdu Olivier Pantaloni qui est sur le banc adverse ce soir, mais qui ont perdu aussi Babo Meïté, Laurent Berger qui est désormais niçois mais qui s'est lui malheureusement fait une rupture des ligaments croisés lors de la préparation. Attention, le centre tout de même de Théo Lebrun qui va passer devant le but. Il y avait, il me semble, Arthur Avom qui s'était projeté dans la surface de réparation pour porter l'ombre, et il a loupé sa reprise de volée. Mais c'est pas fini pour les Merlus à l'entrée de la surface, le ballon qui navigue, le crochet, c'est bien défendu pour les Niçois pour le moment, même si Gabin Bernardo a toujours la possession pour les Merlus. Le centre, encore une fois, qui passe devant Yevan Diouf sans qu'aucun joueur lorienté ne puisse tromper la vigilance du portier niçois. 0-0, mais les premières alertes sont en faveur des Merlus.
Ah oui, l'alignement de la défense niçoise qui laisse à désirer. Hein. Je pensais que ça allait être réglé hein, parce qu'on sait que la dernière, c'était compliqué, l'OGC Nice et sa défense. Avec l'arrivée de Pantaloni, je me suis dit qu'éventuellement, il allait remettre de l'ordre dans tout ça. Bon, on est encore très tôt dans le match, mais c'est vrai que sur les 8 premières minutes, attention les Niçois, c'est moyen derrière.
Hein. Il y a le foot, mais il y a également le tennis. On part à Cincinnati, retrouver Lena Marjac, demi-finale du Master 1000, et tout va bien pour Arthur Fils, le français, face à Koboli.
Oui, une demi-heure de jeu et Arthur Fils a empoché déjà la première manche, 6 jeux à 3. Alors on a eu deux visages d'Arthur Fils dans cette première manche. Il a été breaké au tout début, il faisait pas mal d'erreurs et puis ça l'a un petit peu boosté, ça lui a fait une petite piqûre de rappel que Flavio Koboli prenne son service, et donc derrière il a littéralement déroulé le français, demi-finale donc d'un Masters 1000. Et Arthur Fils, il y a un petit enjeu, il pourrait aller chercher sa première finale de Masters 1000 juste en dessous des grands chelems pour la première fois de sa carrière. Donc pour l'instant tout va bien Cincinnati, tout va bien dans l'Ohio pour Arthur Fils. 6-3 pour la première manche.
Ça serait magnifique. Le temps, le score de ce premier multiplex de la saison de Ligue 1. On commence avec Clément Brossard au Mans.
8 minutes de jeu, 0-0 entre Le Mans et Brest.
Nous sommes dans le sud-est à Nice avec Maxime Tillette.
0-0 également entre Nice et Lorient à la 9ème minute.
Direction Toulouse avec Romain Malric.
9 minutes de jeu, 0-0 entre le TFC et Lyon.
Et à 3 avec Fred Joly.
10 minutes de jeu, 0-0 entre Troyes et le PFC.
Et je vous rappelle que Lens a battu Auxerre 5-2 en ce samedi après-midi. Vous êtes sur RMC, le multiplex continue. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.
RMC, l'After Live.
Karine Galli.
On est ensemble sur RMC, il est 20h56. Le multiplex de la première journée de Ligue 1. Pour l'instant, pas de but. On va aller à Toulouse parce qu'en tout cas, Toulouse pousse.
Ouais, Toulouse pousse, 12 minutes de jeu, 0-0 entre le TEF et Lyon. Mais même si ce sont les Lyonnais, je pense qu'ils ont la maîtrise du ballon, qui ont la possession, on sent bien que du côté toulousain, il y a la volonté d'être un peu plus... on va dire direct vers le jeu offensif, cette volonté en tout cas dans le jeu de transition de vite aller vers l'avant avec Boro, avec Jorgensen en alertant donc Boro ou Vignolo sur le côté. Pour l'instant ça pas toujours bien terminé parce que les choix des attaquants toulousains n'ont pas toujours été bons dans la dernière passe, dans la dernière frappe. Ça, il y a tout simplement, il n'y a pas eu de tir cadré alors qu'on a déjà eu 4 tentatives du côté toulousain. Donc voilà, il manque cette finition encore côté toulousain pour parfaire en effet cette volonté de Jens Bertelascu, l'entraîneur danois, le nouvel entraîneur qui est arrivé, qui veut proposer un jeu plus attrayant. C'est ce qu'il a annoncé dans les diverses conférences de presse depuis le début de la saison. Faire en sorte que le public se régale au stadium, parce que c'est vrai que le TFC a de bons résultats, le TFC a terminé 9e, mais avec seulement 6 victoires au stadium, il y a cette volonté peut-être de faire plaisir un peu plus et d'être plus offensif. Et encore faut-il convertir évidemment les actions offensives. Pour l'instant c'est un corner côté Lyonnais, le deuxième du match et le deuxième pour les Lyonnais. Cette fois c'est de l'autre côté, ça sera dans les gants sans problème de Guillaume Reste, parce que c'est Boudage qui a trop levé ce ballon. Donc sans problème, ce ballon va être récupéré par les Toulousains qui vont remonter le ballon. 13 minutes de jeu, 0-0.
On va au Stade de l'Aube retrouver Fred Joly, 3, qui est opposé au Paris FC.
14 minutes de jeu, 0-0, mais les Aubois qui sont en train de prendre confiance dans cette rencontre. Ils sont en train de s'installer gentiment dans le camp des Parisiens. Ils ont eu d'ailleurs un coup franc. Alors, un coup franc face au PFC, autant vous dire que c'est pas simple. Hein. Il y a des beaux lascars hein, derrière, il y a des beaux bébés. Même Ripard qui est pourtant un beau bébé, quand on le voit à côté de Coppola, on voit qu'il y a quelques centimètres d'écart, donc ça peut être compliqué de passer par le jeu de tête. Ils ont essayé une tête de Ripard qui est passé à côté du but de trappe. C'était une demi-occasion auboise, on vous le dit, des Aubois qui prennent doucement confiance mais qui s'appliquent, qui cherchent à vraiment respecter à mon avis les consignes qu'a pu leur laisser Stéphane Dumont, le coach aubois. Le ballon dans la profondeur avec Ripard qui va pouvoir remettre devant le but. Ce sera un corner à suivre pour les Troyens. 0-0, le quart d'heure de jeu au Stade de l'Aube.
C'est très très bien joué de la part du capitaine Croyen, cette passe là en profondeur pour Ripard. Ces deux joueurs qui vont être intéressants, Monfray et Ripard, d'un point de vue expert, parce qu'on l'a dit, cette équipe troyenne, elle est très jeune, elle découvre la Ligue 1 pour beaucoup de joueurs. C'est vrai que c'est important de s'appuyer sur ce genre de joueurs. Et nous l'ont encore montré sur cette action.
Et on retourne à Toulouse. Toulouse face à Lyon, on l'a dit, franchement, Toulouse est en train de pousser. Et en plus, Romain Malric, Toulouse joue sous notre nouvel entraîneur des gardiens.
Ah, ça vous a pas échappé, en effet. Fabien Barthez est présent en tribune. C'est un local de l'étape, Fabien. Il a été formé à Toulouse. Il est toulousain, même s'il est de l'Avelanais, exactement. Mais il est présent au stadium. Il a été, d'ailleurs, c'est finalement sa seule expérience en tant que coach en Ligue 1, c'est d'avoir été consultant gardien. Pour le TFC pendant quelques années. Donc cette expérience-là va lui servir évidemment dans le staff de Zinedine Zidane. Je pensais que vous alliez me parler de la bévue de Diallo qui a fait une relance un peu délicate là côté toulousain, une passe en retrait qui est arrivée dans les pieds d'un Lyonnais. C'était en l'occurrence Imbert qui a tenté directement, alors c'était pas forcément, en tout cas c'est pas bien exécuté, le lob, puisque Guillaume Reste était avancé. Malheureusement ce lob n'était pas cadré, mais ça aurait pu être le premier but gag, relance gag, et par contre une belle finition de la part Humbert, et ça aurait été donc l'ouverture du score ici au stade. Mais pour l'instant, après 15 minutes, toujours 0-0 entre les deux équipes.
Retour au Mans, Clément Brossard, Le Mans face à Brest.
Et les Sartois pas intimidés, franchement, dans cette rencontre, avec un nouveau centre venu de la gauche, c'est repoussé par la défense brestoise, ça va revenir vers Alexandre Loret, et finalement Noah Boissé qui est là pour la remettre à son capitaine Loret sur le côté droit désormais, avec Adil Bouraba qui va lever la tête, le centre du Bouraba jusqu'à Rabillard, et la bonne défense brestoise encore une fois. Les Manceaux qui vont récupérer le ballon aux abords de la surface de réparation bretonne avec Mafouta, le petit 1-2, et Brest qui va se battre sur ce ballon et récupérer la possession. On a vu une bonne occasion, Mancel, il y a de cela 3 minutes, avec une frappe de la Roussie
court de frappe du gauche repoussé par Selvik. Buades ensuite a suivi, a tenté du droit, ça a été capté par le gardien norvégien Egil Selvik. Donc 8 sélections avec la Norvège, qui avait joué d'ailleurs contre l'équipe de France en Coupe du Monde lorsque les Norvégiens avaient fait tourner. C'était lui le titulaire dans la cage norvégienne, et il s'est employé déjà 2-3 fois depuis le début de la rencontre pour repousser les offensives mancelles. Mais devant, il y a ce monsieur habitué évidemment à la Ligue 1, Ludovic Ajorc, 199e match de Ligue 1 ce soir, qui fait beaucoup de mal dans le duel surtout à la défense mancelle. Il était pas loin du carton jaune, Théo Ayoum, le défenseur central, qui a accroché par le maillot Ludovic Ajorc, qui partait au but il y a 3-4 minutes. Le coup franc de Kenny Lala a été ensuite frappé, et la tête de Le Guen, non pas Paul mais Raphaël, au second poteau est passée à côté. Donc il y a du rythme franchement dans cette rencontre, mais toujours pas de but pour le moment. 17 minutes 0-0 Le Mans Ouest.
Et Clément, côté Manceau, aussi un joueur à suivre, l'ancien joueur de Guingamp et d'Amiens, l'attaquant Mafuta, qui a été recruté, qui ne connaît pas forcément très bien la Ligue 1. C'est vrai que ça va être intéressant de le voir. Lui qui a très très bien fonctionné en Ligue 2 pour ses différents clubs. Après la Ligue 1, on sait que c'est un niveau différent avec un peu plus d'intensité. Mais c'est vrai que c'est encore une fois judicieux et bien joué de la part du Mans, qui, comme chaque année et comme chaque saison, en règle générale, font un mercato intelligent. Donc voilà, en espérant qu'il puisse marquer et que ça puisse aider le Mans à faire une bonne saison en Ligue 1.
Oui, bien sûr, un travail de l'ombre aussi opéré par les investisseurs et par Olivier Thomas, qui est coordinateur sportif, l'ancien Manceau et l'ancien Nantais, alors qu'il y a un coup franc qui va être joué là par les Brestois. Cette reprise juste de Lucas Touzard, qui passe au-dessus de la barre transversale de Nicolas Kosic. Mais Louis Mafuta, en effet, qui est venu de Guingamp, deuxième meilleur buteur de Ligue 2 l'année dernière avec 15 réalisations, qui va découvrir donc et qui découvre à l'instant même la Ligue 1. Intéressant aussi, c'est un gros gabarit, bien bien costaud. Il arrive à jouer en remise, il l'a montré à 2-3 reprises. Il a aussi une petite pointe de vitesse assez intéressante, donc il faudra le suivre. En effet, on n'a pas donné d'objectif encore de but, c'est pas exprimé devant la presse, on lui demandera certainement après la rencontre, mais ce sera un des hommes à suivre pour les Manceaux. 0-0 Lumin Fouta justement, qui a le ballon.
Ça peut être une belle surprise cette saison en Ligue 1, ce joueur.
On part à Nice, on va retrouver pourquoi Maxime Tilliette. Les Niçois sont opposés aux Lorientais. Est-ce que Nice est dominateur devant, j'allais dire devant son public, non parce qu'il n'y en a pas, mais donc chez lui?
Nice est dominateur, pas devant son public, mais Nice est dominateur en effet. Depuis quelques minutes, les Niçois ont réussi à s'installés dans le camp des Lorientais, mais n'ont pas réussi à concrétiser leur petit temps fort. Il y a eu notamment sur un centre une tête défensive mal négociée par Arsène Kouassi, le latéral gauche, et dans son dos Sofiane Diop était bien présent pour tenter sa chance, mais il s'est heurté à Yvon Mvogo, qui est sorti très vite pour contrer la reprise de volée du Niçois. Derrière, il y a eu 2-3 corners frappés par Jonathan Clauss, sans réellement inquiéter l'arrière-garde lorientaise. Mais les Niçois sont bien depuis quelques minutes, ils sont un peu mieux bien installés, notamment avec Junior Manza, le jeune joueur né en 2009, qui joue au poste d'axial gauche de la défense, qui a délivré une très belle passe tout à l'heure pour Jonathan Clauss, qui a pu enchaîner la frappe dans la surface de réparation. Attention à Gauthier, il est la seule recrue alignée ce soir dans le 11-10. La belle passe pour trouver Sofiane Diop dans la surface avec Clauss désormais. Ça joue bien le centre qui passe devant tout le monde. Il était trop court, Zoumana Diallo, dans les 6 mètres pour tromper la vigilance d'Yvon Mvogo. Ils sont bien les Niçois, mais ne parviennent pas à ouvrir la marque. Toujours 0-0 à la 20e minute.
Et le nouvel entraîneur lorienté du jeu, qui finalement n'a pas changé énormément de choses par rapport à ce que faisait Pantaloni l'année dernière, qui, on le rappelle encore une fois, mais était l'ancien entraîneur du FC Lorient, avec une composition d'équipe plus ou moins similaire, 5 défenseurs. Et c'est vrai que voilà, c'est aussi l'intelligence de la direction lorientaise d'avoir été chercher un entraîneur qui finalement complète un petit peu ce qu'a fait l'année dernière Pantaloni. Et n'oublions pas qu'ils ont fait une très très bonne saison sous l'entraîneur corse.
En effet, et on voit qu'il est vraiment dans la continuité aussi dans le côté hybride de son équipe, qui défend en 5-4-1 et qui bascule en 4-2-3-1 avec un Théo Lebrise qui peut faire le yo-yo entre le poste de piston droit et vraiment d'ailier droit. On l'a vu tout à l'heure déborder et adresser un très bon centre, notamment. Attention à la paire de balles de Djibril Koulibaly côté niçois avec la frappe de Makengo. Elle passe juste à côté de la lucarne de Yevan Diouf. Attention sur cette relance, la prise de risque était sans doute trop grande de la part du gym et ça a failli se concrétiser par l'ouverture du score. Oui, la passe aveugle juste devant la surface de réparation, directement interceptée, la frappe du gauche rasante et tendue qui ne trouve pas le chemin du cadre malheureusement pour les Lorientais ici, d'Alexandre Dujeu qui était tout proche d'ouvrir le score. Alors certes la continuité, mais il a perdu quand même pas mal de joueurs, Alexandre Dujeu, par rapport
notamment
à l'effectif
Pagis.
Le duo Bamba Dieng Pablo Pablo Pagis, qui pesait 20 buts sur les 48 marqués la saison dernière en Ligue 1 par les Merlus. C'est vrai que ça fait pas mal d'absence, enfin, ça fait des départs assez durs et lourds à compenser. Et d'ailleurs, ce soir, c'est Mamadou Koné, 19 ans, qui connaît sa première en Ligue 1 au poste d'avant-centre titularisé. L'attaquant ivoirien qui avait fait deux apparitions en Coupe de France la saison dernière et qui doit désormais, ce soir du moins, endosser le rôle de titulaire sur le front de l'attaque lorientaise. 0-0 à Nice à la 22e minute face à Lorient.
On part à Toulouse avec Boudache, la jeune recrue lyonnaise qui a pris sa chance de loin. Romain.
Ouais, c'était en effet il y a quelques secondes de ça, la première frappe des Lyonnais de la part de Kyle Boudache. Je pense honnêtement, je la voyais en lucarne avec l'effet d'optique de ma position. Il était à 25 mètres des buts de Guillaume Rest. La frappe du gauche qui passe juste à côté, me semble-t-il, vraiment du poteau, du portier toulousain, et à l'origine de l'action. Parce qu'on regarde évidemment, on observe les nouveaux joueurs de cette saison en Ligue 1. Le déboulé sur le côté droit de Mats Bidstrup, le milieu de terrain danois du côté lyonnais, qui est très actif, qui est un peu partout. Il est dans la récupération de balle, il se propose également beaucoup au milieu de terrain, il se projette aussi vers l'avant. C'est vraiment un joueur qui va compter dans la saison lyonnaise. En face de lui, un autre danois qu'on attend beaucoup, c'est Thomas Jørgensen côté toulousain, qui est un peu plus discret, qui a moins de ballons, et le jeu est plus organisé par, et c'est assez surprenant finalement, par Niklas Schmidt côté toulousain, qui a plus gros volume de jeu, plus qu'on l'espérait d'ailleurs. Niklas Schmidt, l'allemand, et c'est lui qu'on voit beaucoup dans le milieu de terrain toulousain, en plus de Christian Caceres, qui est toujours évidemment omniprésent. 22 minutes de jeu, 23 désormais, 0-0 toujours entre le TFC et l'OL.
On part à 3-3 face au Paris FC. Fred Joly, les Troyens qui sont à l'attaque.
Exactement, 23 minutes de jeu, 0-0, mais des Aubois qui sont, ça y est, complètement décomplexés.
Énorme occasion pour les Lorientais, encore une fois, la relance ratée. C'est Yevan Diouf, là, directement, qui a offert un ballon à son ancien coéquipier. Il a dû confondre, parce que Gabin Bernardo, là, il hérite d'un caviar quasiment. Et c'est un face-à-face pour Gabin Bernardo. Heureusement pour le gym que Yevan Diouf remporte ce duel. Bernardo le joue peut-être pas très bien, hein, en tirant plein fer sur le portier niçois. Il va y avoir un corner. C'est Bernardo, justement, qui va s'en charger, lui qui a passé la saison dernière du côté de l'OGC Nice. Il était resté muet d'ailleurs, Bernardo, lors de son seul exercice
Maxime
ici.
Le corner joué à la Rémoise. Bernardo qui va retrouver Makengo, le centre au second poteau. Les Niçois sous pression, mais vont éloigner de danger de la tête grâce à Zoumana Diallo. Toujours 0-0, mais les Lorientais sont vraiment bien dans leur match à la 23e ici à Nice.
Et les Niçois beaucoup moins, hein, très très friables à la relance, hein, les défenseurs niçois, ouais, même le gardien, là, ça fait trois fois qu'ils perdent des ballons dans des zones dangereuses. Honnêtement, là, Lorient,
il va y avoir un nouveau corner pour les Lorientais. Alors l'argument de la jeunesse va peut-être pas tenir pour Yevan Diouf et ses 27 ans. En revanche, il y a quand même pas mal de jeunes formés au club, notamment Junior Manza, 17 ans, né en 2009 dans la défense centrale, et le tandem au milieu de terrain, Djibril Koulibaly, 17, et Everton, 19. Très très jeune cet effectif niçois à certains postes, mais voilà, ça fait partie de l'apprentissage, et il avait pas trop de choix, Olivier Pantalouni, en l'absence notamment de Laurent Berger qui s'est fait les croisés, et d'Axel Witsel qui n'est pas encore totalement prêt. Le corner est joué avec Bernardo pour centrer très fort au premier poteau. Il y a un Lorienté qui va toucher le ballon. Ce sera bien un 6 mètres pour Yevan Diouf, qui va pouvoir souffler un petit peu. La 25e, toujours 0-0 entre Lys et Lorient.
Et on retourne au stade de l'Aube. Donc Fred Joly, tu nous disais les Troyens qui prennent confiance.
Ouais, exactement, insouciance et fraîcheur, ce que réclamait Stéphane Dumont cette semaine en conférence de presse. Et bien voilà, l'équipe auboise qui a signé 14 victoires à domicile la saison dernière semble partir sur des bonnes bases. Alors certes, ils sont dominateurs, ils ont le ballon,
le
ça manque.
Oh, l'occasion incroyable pour les Toulousains. J'arrive même pas à imaginer ce qui se passe dans la tête c'est Chris Tapé. Le ballon lui est passé entre les jambes. D'abord, c'est un corner tiré par Thomas Jørgensen. Ça fait à peine 4 jours qu'il est là, mais c'est déjà lui qui tire les corners côté toulousain. C'était son deuxième, il est plutôt bien tiré. Ça arrive dans les pieds de Vignolo. La frappe de Vignolo, elle est déviée, elle rebondit sur le poteau de Rémi Descamps, et ensuite c'est assez étonnant, mais Chris Tapé n'arrive pas à mettre le ballon au fond du but, et finalement un Lyonnais arrive à remettre ce ballon en corner.
C'est Brice Bidstrup, hein, qui se jette et qui vient tacler pour contrer en effet le deuxième tir toulousain. Oui, vraiment, il s'est sacrifié. Hein, il a aidé son équipe vraiment à pas encaisser ce but-là. C'est vraiment dommage pour Toulouse, parce que ils font front, hein, sur le but lyonnais depuis quelques minutes. Et honnêtement, ils s'en sortent bien, ouais, hein, ces Lyonnais.
Mais ce qui est étonnant, c'est avant que Bidstrup intervienne, c'est le raté de. Ah bah oui. Il me semble que c'est Tapé qui loue complètement le ballon, alors qu'il est à 30 cm de la ligne. Attention, la touche longue. de Mackenzie. Visiblement, on va continuer avec les touches longues, même avec Bertelascu. Ben, peut-être que Jens Bertelascu a bien compris que on avait du côté de l'Américain Mackenzie cette arme possible. Donc autant l'utiliser. Et là, il l'a faite. Ça a fait donc comme un corner. Et la tête du Toulousain est passée au-dessus des buts de Rémi Descamps. Ça fait en effet quelques minutes que ça pousse un petit peu avec un enchaînement de corners notamment côté Toulousain, mais toujours pas de but pour l'instant au Stadium après 27 minutes de jeu 0-0.
Alors on retourne voir Fred. Est-ce que tu vas arriver à terminer ta phrase, mon cher Fred Joly? Je ne sais pas, il va y avoir une occasion quelque part.
Je ne suis pas sûr. Normalement j'attire les buts, bon, c'est déjà ça, ou j'attire les occasions. Pour vous dire que les Aubois font mieux donc que se défendre. Et puis cette jeunesse hein, Auboise insouciante, ou Zenadji, le jeune défenseur 20 ans qui a fait une parfaite intervention entre deux Parisiens. Il est resté très calme, il a réussi à relancer intelligemment. Alors ça domine, c'est si on peut dire, disons que les Aubois sont dominateurs, mais ils ont du mal dans le dernier geste à faire la différence face à des Parisiens qui, dès qu'ils se mettent dans le sens du but, peuvent, et on le voit, devenir dangereux. Récupération parisienne d'ailleurs avec cette accélération, mais les Troyens sont bien regroupés en défense. 0-0, 28 minutes de jeu au stade de l'Aube. J'ai réussi à faire une phrase entière.
Intéressant la tactique choisie par le nouvel entraîneur du Paris FC, hein, Rosenior. Hein. C'est vrai que du côté de Strasbourg, on l'avait connu avec un pressing assez haut, parfois très intense. Là, c'est pas trop le cas. Voilà, il laisse le ballon aux Troyens. On l'oublie pas, hein, les Troyens qui viennent d'être promus. Donc, c'est-à-dire que c'était quand même une petite équipe de Ligue 1, hein, sans leur manquer de respect. C'est vrai que je m'attendais à un Paris FC un peu plus entreprenant. C'est pas forcément le cas. Ils essaient vraiment d'optimiser les transitions offensives. On est vraiment sur un petit rythme, hein, sur ce match-là. Hein.
Le temps, le score sur les différentes pelouses. On commence avec Clément Brossard-Roman.
La 28e minute, 0-0 entre Le Mans et Brest.
On est à Nice avec Maxime Tilliette.
Pas de but non plus, 0-0, la 28e minute entre Lys et Lorient.
À Toulouse avec Romain Malric.
Tout pareil, 28 minutes de jeu, 0-0 entre Toulouse et Lyon.
Je veux des buts là, à 3 il y a des buts. Non, il n'y a pas de but, je ne suis pas contente, Fred.
Non, toujours pas. 28 minutes de jeu, 0-0 entre 3 et le Paris FC.
Un scandale, heureusement qu'il y a des buts en Ligue 2. Edouard Gilles, le temps, le score, Saint-Etienne qui déroule.
Exactement, nous sommes à la 55e minute, peut-être un autre, non, on en reste à 3 pour le moment, les 3 buts de la première période. Zvongai, le Hongrois à la 12e, Ballot, l'Autrichien à la 20e et Ivan Cardona à la 45e, plus 3, c'est la balade pour l'instant de vert heureux, 3-0 à la 55e face à Grenoble.
Et on part aux États-Unis, vous le savez, il y a le tennis avec le Master 1000 de Cincinnati. Léna Marjac, tout va bien pour notre Français Arthur Fils.
Oui, tout va bien, toujours 56 minutes de jeu, 6-3 dans la première manche et 4-3 maintenant pour Arthur Fils dans le deuxième set. Il a le break en poche.
Vous êtes sur RMC, le multiplex évidemment continue, et puis juste après il y aura l'after foot autour de Jérôme Sion pour débriefer justement toutes les rencontres de ce samedi. À tout de suite,
RMC, l'after live,
Karine Galli. 21h15 en direct du studio Roland Courbis avec Maxime Chano, le multiplex de la première journée de Ligue 1. Et oui, on est heureux, cette Ligue 1 qui nous a tant manqué, qui a repris évidemment ses droits hier. Marseille a gagné 4-0, un petit peu plus tôt Lens a battu Auxerre 5-2. On attend les buts. Moi j'avais annoncé à nos auditrices et nos auditeurs un spectacle incroyable, début à gogo. Il ne se passe rien. Ah, Clément
Brossard, le but pour le Stade Brestois sur la pelouse Marcel, sur une très bonne opportunité. Romain Del Castillo qui ne s'est pas fait prier, il arrive sur le côté droit de la surface de réparation, il trouve la faille pour se libérer de tout son marquage, être face à Nicolas Kosic, et du pied gauche avec un bon plat du pied, tromper le gardien Manceau. L'apprentissage du Mans était pourtant bon hein, sur ces 30 premières minutes, ils avaient réalisé un très bon début de match, mais finalement ce sont les Bretons qui ouvrent la marque ici en Sarthe, 1-0 le but de Romain Del Castillo.
Le but brestois un petit peu contre le cours du jeu hein, le rapport de force était quand même plus à l'avantage des Manceaux depuis le début de ce match, et voilà, sur une contre-attaque rondement menée. Bon, il y a un contre favorable au milieu de terrain, mais derrière Del Castillo qui se laisse pas prier, voilà, qui élimine trop facilement le défenseur central Manceau, et puis derrière qui vient ajuster d'un enroulé pied gauche le gardien Manceau. Voilà, c'est la triste réalité entre guillemets de la Ligue 1 pour les Manceaux.
Joli but de Del Castillo, Fred Joly, le poteau
parisien. Oh, elle était belle cette frappe enroulée pied gauche. Je crois que c'est Kemal hein, qui est venu placer cette frappe enroulée, poteau opposé. On s'est détendu du côté de Patrick Beach, le portier au bois, mais c'est le poteau qui a sauvé les Troyens. La première véritable occasion, elle est pour les Parisiens. Le score est de 0-0 après ce superbe poteau, superbe occasion pour les Parisiens.
ça y est, c'est vraiment parti sur les pelouses de Ligue 1 avec ce multiplex. Le premier but qui est signé Del Castillo, on l'a vu, hein, demandé à tout le monde de se regrouper pour faire corps, pour fêter ensemble ce but, avec notamment le nouvel entraîneur, vous le savez, hein, c'est la Schuer qui a pris la suite d'Éric Roy, lui qui était déjà évidemment dans le staff. Donc ça y est, le premier but de ce multiplex est marqué par Romain Del Castillo. On retourne à Nice, entre Nice et Lorient, Maxime Tilliette, les Niçois qui relèvent un petit peu la tête après avoir souffert.
Oui, en effet, ils relèvent la tête, et à l'instant c'est Antoine Mendy qui s'est illustré de la tête justement sur un centre de Jonathan Clauss, mais le jeune défenseur niçois n'a pas réussi à trouver le cadre. Il était resté aux avant-postes après un corner frappé par Gauthier Hein. Mais les Niçois, oui, ils sont un petit peu mieux, même s'ils ont concédé quand même les plus grosses occasions de cette première mi-temps. Ils sont plutôt là ces derniers instants en maîtrise du cuir, de la possession, et installés dans le camp des Merlus qui coulissent bien défensivement. C'est assez tactique comme rencontre pour le moment, toujours 0-0 avec 12 minutes à jouer dans cette première période.
On va où, Maxime?
Eh bien, partons à 3. À 3, parce que je viens de voir que Pape Opagis a encore une nouvelle occasion.
Fred Joly, 3, Paris FC.
Ah, exactement, après ce poteau trouvé il y a quelques petites minutes, et bien c'est Pagis qui a placé une accélération sur le côté gauche et qui est venu défier le gardien troyen. Enfin, ça manque un petit peu de précision dans le geste final, mais bon, deux occasions qui auraient pu amener le but parisien, comme quoi les Parisiens sont en train peut-être pas de se réveiller, mais en train vraiment d'essayer de trouver l'ouverture, trouver la faille, de bousculer cette équipe auboise qui pour l'instant résiste bien, 0-0 après 34 minutes de jeu.
Alors qu'on revoit l'action de Kebal, hein, qui avait fait sa spéciale, hein, qui s'était retrouvé un petit peu à l'entrée de la surface, un petit peu décalé sur le côté gauche. Il est rentré justement sur son pied fort, son pied gauche, et il vient enrouler, ça touche le poteau du gardien Troya. Ah, c'est dommage pour Kebal, parce que ça aurait été un très beau but déjà dès la première journée pour lui.
Ouais, effectivement, Kebal qui s'était illustré déjà l'an dernier en Ligue 1 et qui va continuer avec le Paris FC, parce qu'on a dit, hein, du côté du club parisien, Kebal n'est pas à vendre, et forcément c'est une bonne nouvelle pour nous s'il reste en Ligue 1 et donc au Paris FC. On va retrouver Romain Malric, Toulouse face à Lyon. Est-ce que les Toulousains continuent de pousser?
Ouais, il y a eu un 34 minutes de jeu 0-0. Il y a eu un arrêt de jeu assez long parce que le milieu terrain lyonnais Mathis de Carvalho est resté au sol après une jolie semelle de la part de Niklas Schmid, qui a d'ailleurs pris un carton jaune au passage. Donc ça a un petit peu calmé les ardeurs toulousaines, ce temps mort qui a duré un petit moment. Les Toulousains repartent à l'attaque à l'instant avec ce ballon pour Caceres. On essaie de combiner. Pour l'instant, on sent qu'il y a des automatismes à créer, notamment avec les deux latéraux qui sont nouveaux côté toulousain, Diallo côté droit et Tapé côté gauche, et qu'on n'a pas forcément les mêmes compétences que Sidibé ou Metali. Les anciens au poste qui sont désormais l'un au Mans et désormais l'autre, le jeune Metali du côté de Sunderland depuis deux jours désormais. Donc voilà, il faut retrouver les automatismes et se projeter différemment pour les Toulousains qui en plus ont changé de tactique durant l'été avec le nouvel entraîneur. 35 minutes de jeu, 0-0 toujours donc entre le TFC et Lyon.
Ouais, c'est ça la grosse différence aussi, hein, de ce changement d'entraîneur, c'est qu'ils sont passés à 4 derrière. L'année dernière c'était pas forcément le cas. C'est aussi le départ de Creswell, hein, qui était l'homme fort avec Nicolas Hyssen de cette défense toulousaine. Alors ça va être intéressant de voir justement comment les joueurs toulousains s'adaptent à cette nouvelle entraîneur, cette nouvelle façon de jouer. Tu l'as dit un peu plus tôt, c'est un entraîneur qui veut aller vers l'avant, qui veut donner un peu de spectacle. C'était pas forcément le cas l'année dernière. Ouais. Voilà, je suis agréablement surpris en tout cas ce que je vois depuis les 35 premières minutes, même si bon, Lyon n'est pas le grand Lyon. Là, on a expliqué pourquoi, notamment parce que Fonseca a décidé d'aligner son équipe B, voire son équipe C. Mais ce que je vois de la part des Toulousains depuis le début de ce match, vraiment, je suis agréablement surpris.
Metali, on rappelle, plus grosse vente de l'histoire du club. On parle de 28 millions d'euros assortis de primes. Et donc, le TFC a fini par céder son joueur qui part en Angleterre. Nous allons partir à Nice. Maxime Tilliette, entre les Niçois et Lorient. Pour l'instant, il n'y a pas de but.
Pas de but. 10 minutes à jouer dans cette première période. Encore le long ballon, là. Mais il s'est fait bouger Zoumana Diallo pour les Niçois. Et ça va accélérer de l'autre côté avec Noah Kadjou aux abords de la surface. Ah, il a passé là un petit peu dans le dos pour Bernardo à l'entrée de la surface de réparation. Et le danger est écarté par Junior Manza pour le gym. Ça va revenir peut-être rapidement avec le Brice, même si les Niçois. Ouh, attention, le gros tacle de l'attaquant Zoumana Diallo. Ouh. Qui était venu aider sa défense. Il va prendre jaune de la part de Romain Lissorgue. La semaine, elle était quand même bien appuyée au niveau de la cheville de Théo Le Brice.
Ah oui, c'est impressionnant.
Carton jaune. Bon, il va se relever, Théo Lebrys. Même si on l'a forcément entendu hurler vu qu'on est à huis clos et que ça résonne énormément dans cette Allianz Riviera, mais ça a l'air d'aller pour Théo Lebrys. Et carton jaune donc pour Zoumana Diallo à 9 minutes de la fin de cette première période. 0-0 entre Nice et Lorient.
Heureusement que Diallo touche le pied du joueur lorienté, parce que si la semelle était un peu plus haute, je pense que ça serait un rouge direct. Ouais. C'est aussi justement la problématique de ces attaquants qui n'ont pas forcément connaissance de comment tacler, comment défendre. C'est pas leur qualité première, et on voit souvent des maladresses comme ça sur ce genre de tacle qui n'est pas vraiment utile à la 36e minute dans son propre camp. Voilà, finalement ça tombe bien pour ce joueur, il écope uniquement d'un carton jaune, mais attention, c'est un petit manque d'expérience de la part du joueur niçois.
Un seul but marqué dans ce multiplex, il a été marqué par Del Castillo, le Brestois, sur la pelouse du Mans. Clément Brossard, est-ce que les promus arrivent à réagir après ce but encaissé?
37 minutes, 1-0 pour Brest. Et oui, Karine, il y a une réaction de la part des Manceaux, avec notamment, on en parlait tout à l'heure, Louis Mafuta, la nouvelle recrue offensive pour Le Mans, qui a arrêté d'un ballon à l'entrée de la surface de réparation. La frappe du droit assez lourde qui a été repoussée par Egil Selvik, le nouveau gardien norvégien du Stade Brestois. Et une minute plus tard, même quelques secondes plus tard, c'est Yasser Laroussi sur son côté gauche qui crochette pour se mettre sur son mauvais pied en éliminant son défenseur, et qui voit sa frappe du pied droit filer au-dessus de la cage brestoise. Donc les Sartois sont loin d'être atterrés après cette ouverture du score de Romain Del Castillo. 1-0 toujours pour Brest, 38 minutes de jeu, mais Le Mans réagit.
On va aller à Toulouse qui essaye encore, on vient de voir une incursion côté droit de la part des Toulousains. Romain Malric.
Ouais, Vignolo plus rapide que Ouédraogo. La vitesse des Toulousains, on sent bien que c'est l'arme voulue par Jens Bertelascu, avec Vignolo d'un côté et Beau de l'autre. Hidalgo aussi qui en pointe de l'attaque, et peut-être l'idée que, et en effet, les attaquants toulousains sont peut-être un peu plus rapides et plus vifs que la défense lyonnaise. Alors c'est vrai qu'il y a des incursions, tu l'as dit Maxime, il y a cette volonté de se projeter vers l'avant, on le voit, ça manque de finition, ça manque de justesse technique dans les derniers gestes, à l'image de ce centre là de Caceres qui est partout tout comme toujours, mais son centre ne trouve pas preneur, et c'est la défense lyonnaise qui se dégage, et les Lyonnais qui vont même récupérer un coup franc. Il reste encore 7 minutes dans le temps réglementaire avant la mi-temps, et les Toulousains, on sent bien qu'ils ont des espaces, ils ont des possibilités, mais pour l'instant, dans le dernier geste, dans la finition, dans cette dernière passe, dans le dernier centre, il manque quelque chose pour finaliser les actions. On a vu, on parle aussi de ce Danois qui joue en poste de 10 là, Jorgensen. Il touche peu de ballons, par contre il ne les perd pas, c'est vrai, il peut être intéressant s'il arrive à avoir un peu de volume de jeu, s'il arrive à se proposer. Pour l'instant on sent qu'il lui aussi cherche sa place, il est arrivé il y a 4 jours, donc les automatismes évidemment ne sont pas encore là, mais c'est vrai que les Toulousains mériteraient peut-être de convertir leurs actions et ouvrir le score pour l'instant face au Lyonnais. On atteint la 40e, toujours 0-0.
Et puis ça manque aussi un peu de densité dans la surface de réparation, tu l'as dit très justement, Hidalgo avec Beau qui arrive bien quand même à se projeter vers l'avant, mais derrière, voilà, que ça soit Diallo, que ça soit l'infiltration parfois des milieux de terrain, voilà, c'est insuffisant en tout cas pour mettre en danger cette défensionnelle lyonnaise jusqu'à présent.
Magnifique, c'est fait. Léna Marjac, notre Français Arthur Fils, s'impose en demi-finale.
Oui, et il a le sourire, Arthur Fils, évidemment. Première finale en Masters 1000 pour lui à 22 ans, le numéro 21e mondial, numéro 21 mondial, qui va atteindre son meilleur classement. La semaine prochaine, il sera 11e mondial. Mais avant ça, il est à une marche demain de remporter le plus grand tournoi de sa carrière et de succéder à Cincinnati. Un certain Guy Forget, c'était en 91 quand Forget s'était imposé. Arthur Fils donc va attendre maintenant de connaître son adversaire. Ce sera soit Francis Tiafoe, l'Américain, soit Brandon Nakashima, là aussi, lui aussi un Américain. On saura ça dans la nuit, mais en tout cas, le plus important, c'est qu'Arthur Fils est en finale à Cincinnati de ce Masters 1000.
Magnifique, bravo à Arthur Fils. On va retourner à 3 tout de suite, parce que le Paris FC a une nouvelle très grosse occasion. Fred Joly.
Ouais, enfin non, parce qu'il y a en jeu.
Ah, pardon.
C'était, il y avait l'idée. Ouais, le drapeau s'est levé. Alors je sais pas qui a été signalé.
Je pense que c'est collé au show au début de l'action.
Effectivement.
Parce qu'il y avait une action intéressante.
C'était Kéba qui avait frappé au but.
Intéressante. Il y a ce centre orienté de collé au show, et je pense que c'est Sinayoko qui laisse à Kéba, qui se retrouve plus ou moins dans la même position que tout à l'heure à l'entrée de la surface de réparation, et se remet sur son pied gauche. Et par contre cette fois-ci, c'est pas le poteau qui vient arrêter son ballon, mais c'est un défenseur troyen qui dégage le ballon de la tête. C'est pas très
académiques, voilà, mais c'est efficace. Drapeaux, de toute façon, le drapeau était levé, donc il ne se passe rien. Je vais partir à Nice parce qu'il y a un coup qui est arrêté. Maxime Tillette.
T'as pas le flair ce soir, Karine, oh, parce que là, il ne donne rien non plus. C'est mal frappé directement dans les gants. Attention, la relance tout de même de Yevan Diouf, Thiago Tchehain, à la retombée avec Arthur Avom qui a fait un très gros effort pour stopper le Niçois qui était parti dans la profondeur. C'était bien fait, hein, la relance là de Yevan Diouf qui avait facilement capté ce coup franc mal frappé de la part de Gabin Bernardo. C'est vrai que c'est dommage pour les Merlus qui étaient tous montés aux avant-postes, qui se sont un petit peu découverts et qui ont failli concéder une occasion en retour. Mais il n'en sera rien, toujours 0-0 pour le moment entre Nice et les Merlus avec 3 minutes à jouer dans cette première période.
Non mais je suis dépité, hein. Je veux des buts, je veux des actions, gâté, hein. Je veux combattre évidemment le record des 11 buts déjà inscrits en deux matchs. On en est très très loin. On va voir si Romain Malric peut me proposer quelque chose de bien à Toulouse-Lyon. Il va y avoir des buts, Romain. Normalement, tu les sens toujours
bien. Tu sais, Karine, hein. Non, mais tu sais, Karine, que moi, j'annonce toujours les buts en deuxième mi-temps.
Oui, et ils arrivent jamais.
Donc on verra bien en deuxième mi-temps. Pour l'instant, on a quelques occasions, notamment une franche avec Chris Tapé qui pour le coup il n'a pas réussi à taper dans le but parce qu'il est à 30 cm de la ligne et il a raté le ballon. Allez, peut-être là avec Hidalgo, il est contré par Clinton Mata. Il y avait hors-jeu de Yann Beau au départ de l'action, mais il y avait un petit jeu dans la surface entre Hidalgo, Beau qui centre en retrait pour Hidalgo, la frappe d'Hidalgo, il y avait tellement de Lyonnais devant lui, je vois pas par où le ballon aurait pu passer. Il a été contré en effet par un Lyonnais, mais Beau était de toute façon hors jeu au départ. Il y a des intentions en effet, elles sont plutôt toulousaines, même si on sent bien que Lyon, par l'intermédiaire notamment de Duranville, on sent qu'il a des gestes techniques intéressants, il a de la vivacité, il peut déborder sur le côté, il peut amener quelque chose, il peut amener le ballon dans la surface, et pourquoi pas Boudache également. Les Lyonnais peuvent faire quelque chose sur une incursion, sur un coup, mais dans l'ensemble c'est plutôt les Toulousains qui se montrent les plus offensifs sur cette première mi-temps. On est à 2 minutes de la fin de ce temps réglementaire et toujours 0-0, pas de but. Mais Karine, pas de problème, il y en aura en deuxième mi-temps.
Sûr,
Karine, j'ai quelque chose pour toi.
Pas de but
à Nice, mais une nouveauté avec les nouvelles règles d'arbitrage cette saison. Attention tout de même, l'occasion peut-être pour les Niçois, non. C'est là parce qu'on a Arsène Kouassi qui a arrêté le jeu à cause d'une blessure et s'est légèrement tordu la cheville. On a fait appel au soigneur. L'arbitre l'a donc fait sortir du terrain et il doit désormais attendre qu'une minute se soit écoulée pour pouvoir reprendre sa position. Donc Arsène Kouassi est en train d'attendre le feu vert du corps arbitral sur le bord de la touche. Le jeu se poursuit, le jeu se déroule. La minute n'est pas encore écoulée et du coup, un corner à venir pour les Niçois et les Merlus sont obligés de défendre à 10 contre 11 sur cette situation. Arsène Kouassi qui fait les 100 pas à l'extérieur du terrain. C'est frappé au premier poteau. Attention à la déviation! Et le but, justement, non, il y a un coup de sifflet de Monsieur Lissorg. Le ballon qui avait été dévié au premier poteau sur ce corner de Gauthier-Hein à la retombée au second. C'était Everton qui met le pied en opposition pour conclure dans le but vide. Alors, j'ai pas vraiment vu la faute. Peut-être Zouman. Ah non, il y a une petite poussette d'Everton.
Il y a une poussette d'Everton sur Kadiou, en effet. Hein. Bon, qui tombe très facilement, mais qu'il la joue à l'expérience, hein, ça permet d'obtenir la faute.
Voilà, il y a eu un but, il n'est pas validé, mais il y a eu un but, c'est ce que je peux.
Non, mais moi aussi j'ai marqué un but tout à l'heure dans mon jardin, Maxime. Mais non.
C'est bien, félicitations. En tout cas, Arsène Kouassi a repris sa place, ça va mieux pour lui après avoir patienté plus d'une minute sur le bord de la touche.
C'est pas mal cette petite règle là, je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais ça permet de fluidifier un peu le jeu. On a vu tellement d'arrêts de jeu, honnêtement, qui étaient inutiles tout au long de ces saisons. J'aime beaucoup ça et ça permet, je le dis encore une fois, de mettre un peu plus de rythme dans nos rencontres de Ligue 1.
Oui, puis ça va éviter surtout à certains d'exagérer des blessures totalement imaginaires.
Ouais, c'est un peu de l'anti-jeu.
Oui, par contre, Maxime, ça veut dire que s'il y a un vrai blessé, c'est l'équipe qui a le blessé qui est un peu lésée pendant une minute.
C'est vrai aussi, ouais, bah, évidemment, il y aura forcément les partisans et les contre cette règle-là, mais on l'a vu à la Coupe du Monde où est-ce que les arbitres, en tout cas la FIFA, avait essayé de demander aux arbitres d'accélérer le jeu, de fluidifier le jeu, et je trouve que les résultats étaient plutôt convaincants. Donc voilà, voir ce qu'on peut appliquer dans notre très chère Ligue 1, mais je pense sincèrement que ça peut être de bon augure, en tout cas pour notre championnat.
La mi-temps au Stade de l'Aube.
Eh ben Fred, rappelle-nous qu'il ne se passe rien chez toi.
Exactement, rien du tout, ça j'ai eu un poteau quand même. Bon, il se passe pas grand chose, c'est pas le match du siècle, mais bon, c'est un match, une première journée sympathique. Allez, 0-0, on va vous amener du spectacle en deuxième période. 0-0 entre toi et le PFC.
Ah, des promesses. À tout à l'heure, Fred, merci beaucoup.
À tout à l'heure.
Le seul qui a rempli pour l'instant sa mission, c'est Clément Brossard. Alors évidemment, il doit être un petit peu déçu parce que c'est un but de Brest, mais en tout cas, c'est le seul but qui a été marqué entre Le Mans et Brest. Clément.
Un bon élève, et c'est étonnant, je ne sais pas. 1-0 pour les Brestois. On est dans le temps additionnel de cette première période. Une petite minute annoncée. On a joué quelques secondes. On a eu une bonne réaction Mancel juste après l'ouverture du score de Romain Del Castillo. Et depuis, ça s'est rééquilibré. Mais vraiment un match plaisant. On a vu 15 frappes déjà dans cette première période avec des bonnes situations d'un côté comme de l'autre. Avec Mafuta qui essayait de chercher Dame Gay. Et alors, c'est pas évident pour vous, messieurs, dames, d'avoir des yeux observateurs sur toutes les rencontres. Mais il y en a un qui crève l'écran, c'est Adil Bouraba qui attention à l'occasion Mancel, l'égalisation à l'instant, ça traîne la surface de réparation, ce sera certainement checké parce qu'il y a peut-être une position de hors-jeu avant tout ça, mais pour le moment le ballon est au fond des filets et ce but il est signé Dame Gay en opportuniste. Là aussi c'est une belle histoire, hein. Dame Gay qui il y a 4 ans évoluait en M3 avec le club de Pays de Grâce et qui est présent aujourd'hui en Ligue 1 pour ouvrir son compteur dans l'élite du football français. Je vous parlais d'Adil Bouraba qui est au milieu de terrain, fait un boulot monstre et se balade au milieu de terrain alors qu'il jouait à Beauvais il y a encore un an. Eh bien, Dame Gay, c'est aussi une très très belle histoire. C'est un garçon qui ne connaît pas l'élite et qui en était très très loin il y a 3 ans, qui vient permettre au monde d'égaliser un partout en attendant la confirmation de monsieur Aurélien Petit.
Alors qu'on réclame une faute, hein, côté brestois, notamment sur Del Castillo, il y a à la base cette perte de balle. Derrière, il y a quand même un dégagement de l'équipe de Brest. Et puis il y a ce fameux cafouillage, comme tu dis, derrière Dame Gay qui n'est pas en jeu, qui est couvert par un défenseur brestois. Et derrière, il ne se pose pas de questions. Voilà, une touche de balle. Il envoie un pétard dans le but brestois. Ça fait un but partout, c'est une égalisation du Mans. Et honnêtement, c'est pas volé parce que le rapport de force était clairement en faveur du Mans sur cette première mi-temps.
À voir si c'est confirmé ou pas. En tout cas, on a vu de belles images. Le buteur qui allait remercier Videra, son entraîneur. C'est fini pour l'instant. C'est la pause entre Toulouse et Lyon. Romain Malric.
Ouais, mi-temps qui s'est conclu encore par une action toulousaine avec Hidalgo bien servi dans la surface de réparation. Il a réussi à se tourner, mais sa frappe du droit était trop écrasée pour tromper la vigilance de Rémy.
Le but est validé, 0-0.
0-0 donc entre le TFC et Lyon à la mi-temps.
On finit à Nice également où c'est la pause, Maxime Tilliette.
Sur le même score, 0-0 aussi, des Niçois plutôt dominateurs avec la possession. Ils se sont créés des occasions mais en ont concédé également, ce qui peut laisser de l'espoir au Merlu dans cette seconde période.
Et le spectacle donc, il est à Marie-Marvin. Rappelle-nous Clément Brossard, cette première mi-temps entre les Manceaux et les Brestois.
Alors que monsieur Aurélien Petit vient de siffler la mi-temps à l'instant, un partout donc entre le Stade Brestois et le Mans Football Club. Ce sont les Brestois qui ont ouvert la marque grâce à Romain Del Castillo à la 31e minute et l'égalisation au bout du temps additionnel de la première période signé Dame Gay. Donc après un petit cafouillage, l'image est belle aussi, hein, de Dame Gay qui ne savait pas trop s'il allait rester ou pas en Ligue 1 parce qu'il n'avait pas de référence du haut niveau, parce qu'il se disait peut-être qu'il pouvait trouver un challenge aussi avec de l'argent à gagner ailleurs dans les pays du Golfe. Et Patrick Videra qui a voulu le garder, le conserver, et la très très belle accolade entre les deux hommes. Un partout entre le promu Monceau et le Stade Brestois.
Merci beaucoup. On va évidemment débriefer dans quelques secondes cette première période des matchs du multiplex de Ligue 1, mais on va tout de suite aller voir Edouard G. Tout va bien pour Saint-Etienne face à Grenoble. On est dans le dernier quart d'heure, 3e journée de Ligue 2. Edouard ? Eh ben, on va retrouver dans quelques minutes Edouard G. Vous le savez qu'il y a également de la Liga ce soir avec la 2e journée. On va aller saluer Edgar Grollo, l'Espagnol Barcelone face au Real Madrid, face à Kiki, face à José Mourinho. Évidemment, tout au long de la saison, on va se régaler avec ce Real Madrid qui est forcément revanchard après une saison passée ratée, même 2 saisons ratées. Bonsoir Edgar Grollo.
Salut Karine, salut à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Alors là, on va avoir du spectacle, hein, cette saison. Ah, il va se passer des choses avec ce Real Madrid, avec toutes les belles équipes de ce championnat d'Espagne. 0-0 pour l'instant entre l'Espagnol de Barcelone et le Real Madrid. Et déjà, pour bien commencer la saison, Vinicius Junior qui se chauffe un petit peu avec un adversaire à l'instant après un contact.
Edgar Grollo qu'on a perdu en route, mais en tout cas on a compris que Vinicius Junior se chauffait déjà. Cette saison va être palpitante avec le grand retour de José Mourinho sur le banc du Real Madrid. On a retrouvé Edouard G. Saint-Etienne qui caracole en tête de la Ligue 2, on le rappelle, et qui s'envole vers une 3e victoire en 3 matchs.
Ouais, il n'y a pas photo depuis la première mi-temps. 3-0 donc, c'est toujours le score à 13 minutes de la fin. Je vous rappelle le scénario, hein, Xvongai à la 12e minute, Ballo à la 20e. Et puis, Yann Cardona dans le temps additionnel du premier acte des Stéphanois qui font feu de tout bois. Mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à trouver le chemin pour un quatrième but. Peut-être là, avec ce crochet. Non, ça passera juste au-dessus. Pour l'instant, tous les buts, forcément, c'est des tirs cadrés. Mais tous les tirs de la deuxième période sont non cadrés pour des Stéphanois qui régalent leur public à tel point que les Grenoblois sont complètement sortis de leur match il y a quelques instants. Et pour fêter ça, on va dire, eh bien, il y avait une série de passes à 10 du côté des Stéphanois et les publics stéphanois, les 20 500 personnes qui faisaient des olés à chaque passe. Ça énervait encore un peu plus les Isérois qui ce soir sont complètement dépassés dans tous les sens du terme. Et le tableau d'affichage le prouve en partie. 3-0 donc. On est tout près du 3 sur 3 pour les Verts après la victoire à Sochaux, ici même face à Clermont la semaine dernière. Et donc dans l'autre derby de Auvergne-Rhône-Alpes, face à Grenoble 3-0. Il reste une grosse dizaine de minutes.
Merci beaucoup, Edouard G.